Du 3 au 5 novembre dernier se déroulaient à Arras, dans le Pas-de-Calais, les Rencontres européennes de la jeunesse, un événement organisé par une association d'éducation populaire, les Petits Débrouillards. Au programme, tables rondes et débats sur les questions de la participation des jeunes, des politiques jeunesse et des villes de demain. Seconde émission à propos de ces rencontres, cette fois-ci, je vous propose d'écouter pour commencer le point de vue d'un prof de philo, Bernard De France, qui a fait une grande partie de sa carrière en banlieue parisienne.
La question de la participation des jeunes est une question centrale parce que la Convention internationale des droits de l'enfant reconnaît non seulement des droits à la protection, à l'éducation, à la santé, etc., mais elle introduit également le droit de. Le droit d'exercer soi-même un certain nombre de libertés. Donc il y a d'une part les droits à protection, d'autre part les droits à liberté. Et ces droits à liberté, on s'aperçoit que l'individu ne s'en saisit pas spontanément, y compris les jeunes. Mais ce qu'on dit des jeunes sur leur non-participation est tout aussi vrai des adultes. Et encore plus, probablement, chez les adultes que chez les jeunes. Et donc cette difficulté à établir une participation effective à la vie publique des jeunes, me semble-t-il, est le résultat assez massif. Je dis les choses un peu caricaturalement, mais me paraît être le résultat du fonctionnement même de l'école, c'est-à-dire du système éducatif qui ne prévoit pas du tout dans son ensemble, sauf quelques expériences à la marge, la participation des enfants, des adolescents, des collégiens, des lycéens, à la détermination même de la manière dont se passe l'instruction et la formation. Ça me paraît essentiel. Dès que des jeunes essayent de dire leurs mots, la première expérience massive que j'avais, moi j'ai tous mes élèves de terminale, quand ils me décrivaient des situations scolaires, je leur disais, mais ça, est-ce que vous avez pu le dire au prof, essayer de discuter? Ah, même si on peut pas discuter avec un prof, il a toujours raison. Et donc on est dans une structure religieuse, au sens anthropologique du mot, où le professeur est seul maître à bord après Dieu dans sa classe, et où il est à la fois juge et parti, puisqu'il juge les résultats de son propre enseignement. Il détermine le passage dans la classe supérieure, il punit lorsqu'il a été atteint par la transgression. Or, nul ne peut se faire justice théoriquement à soi-même. Hein. Et donc, on a là des enfants et des adolescents qui ont devant eux constamment l'exemple contraire des principes du droit, des principes élémentaires du droit devenus indiscutables dans notre société démocratique, quelqu'un qui agit en toute impunité. Alors, bien entendu, cette impunité ou cette souveraineté du professeur se renverse radicalement en son contraire, et un certain nombre de collègues abandonnés à leur sort sont livrés au lynchage quasiment permanent des petits, des gamins déchaînés. Ça aussi, là, ça fait partie du paysage. Et on passe d'un extrême à l'autre, ou bien se soumettre, ou bien soumettre. Vous voyez ? Or, se soumettre, c'est se mettre dessous. Hein ? Et quand on exige, dans une forme caricaturale d'autorité, hein, qui en réalité du pouvoir, l'enseignant confond le pouvoir sur la classe avec l'autorité dans la classe, eh bien effectivement, ça entraîne la soumission chez les enfants et les adolescents. Se mettre dessous, c'est s'abaisser. Et les enfants et les adolescents qu'on appelle élèves à l'école, on leur demande de s'abaisser. Il n'y a plus d'école dans ces cas-là. Quand on déplore la non-participation des jeunes, il faut savoir quelles en sont les causes. Voilà. Alors, les causes sont multiples, naturellement. Il n'y a pas que l'école qui est en jeu. Il y a aussi la cité, le cadre de vie, les modes de consommation, les médias ont une responsabilité écrasante dans la démobilisation des jeunes. Mais, bien entendu, voilà, moi j'ai essayé d'agir là où j'avais un peu de pouvoir, quoi. Voilà, c'est-à-dire l'école, oui.
Il y a plein d'alternatives qui se développent au sein de l'éducation nationale en France. Oui. Un point sur ces alternatives, quelle place on leur laisse au sein de l'éducation nationale en France ?
Alors ça, c'était très ambigu parce que nous nous heurtons ici à la confusion des logiques institutionnelles et des logiques associatives. C'est-à-dire que j'ai d'excellents amis qui sont engagés au lycée autogéré de Paris, une sœur qui a travaillé très longtemps au lycée de Saint-Nazaire, au lycée expérimental de Saint-Nazaire, etc. Alors, dans les classes primaires, c'est quand même un peu plus facile. Nous avons beaucoup d'écoles et de classes coopératives, pédagogie institutionnelle, technique freinée, etc. Tout ça n'est pas du tout négligeable et heureusement, les militants de l'éducation nouvelle, de l'éducation coopérative, sont loin d'être isolés. Ils se regroupent, il y a des outils de travail, il y a des sessions de formation, etc. Autrement dit, il y a un certain nombre d'instituteurs, de professeurs d'école, mais c'est surtout vrai pour le primaire, qui s'emploie à faire mentir les analyses que je développais tout à l'heure, et heureusement d'ailleurs. Et donc, on peut avoir l'espoir de... Moi-même, j'ai travaillé, j'ai enseigné la philosophie en lycée, et je faisais ce que je voulais. Aucun inspecteur n'est venu s'aviser de me dire de faire autrement, etc., concernant les notes, les bulletins, les programmes, etc., etc. Donc, nous jouissons d'une certaine liberté, mais effectivement, les conformismes font que cette liberté, les enseignants ne s'en saisissent pas toujours, parce qu'ils peuvent juger ça dangereux. Et aujourd'hui, on est dans une phase de répression. Vous avez les désobéisseurs, ce qu'on appelle les désobéisseurs, qui ne désobéissent pas du tout. Ils font qu'obéir à des injonctions supérieures par rapport à ce que les circulaires officiels leur imposent comme rythme scolaire aux enfants, etc. Et donc, il faut rendre hommage à tous ces travailleurs de l'éducation nationale qui s'emploient, un, à faire mentir les fatalités sociologiques pour les enfants dont ils ont la responsabilité, et deux, à ne pas se soumettre même aux injonctions ministérielles de plus en plus stupides, où on touche le fond, en matière de... Avec l'ancien doyen de l'inspection générale, qui était M. Xavier Darcos, on a vraiment atteint des sommets, non, des tréfonds, au contraire, de bêtises. Alors, vous parliez des expériences. Toutes ces expériences montrent qu'autre chose est possible. Simplement, elles se placent toujours sur le plan... des logiques associatives. Les professeurs se choisissent entre eux, constituent des équipes, etc. Bon. Et, la question est de s'adresser non pas seulement à quelques minorités décalées, en quelque sorte, que ce soit des enseignants d'ailleurs ou les jeunes eux-mêmes, mais de s'adresser à l'ensemble du système institutionnel.
Bernard de France, prof de philo à la retraite, interviewé à l'occasion des rencontres européennes de la jeunesse. C'était début novembre à Arras. Lors de ces rencontres, l'une des tables rondes était consacrée au thème de l'engagement non institutionnel. On a pu y entendre le témoignage de Saïd, alias Saïdou, l'un des deux rappeurs du groupe MAP pour Ministère des Affaires Populaires. On écoute un extrait de son intervention dans laquelle il évoque son parcours.
Premier choc, ça a été, pour moi, ça a été évidemment l'école primaire. Le jour où on m'a expliqué que l'histoire de mes parents, on n'en avait rien à cirer en France. Alors qu'ils étaient bien gentils de venir se casser le dos dans les usines et dans les mines, et d'avoir des devoirs, de payer des impôts. Mais leur histoire... on n'en a strictement rien à foutre de leur histoire, de leurs enfants, de leur famille, et puis aussi de tout ce qu'ils ont, de leur sang qui a coulé aussi pour fabriquer peut-être même la chaussée sur laquelle, devant l'école. Donc ça a été mon premier choc traumatique. Donc je suis rentré à la maison et j'ai dit à mes parents, mais en fait, moi je suis pas français. Puisqu'on est à l'école de France et on ne parle pas de nous. On est donc des Arabes, des Algériens. Et mon père m'a dit, évidemment, ils nous détestent pour telle et telle raison, des raisons coloniales, une décolonisation qui s'est mal faite. Donc ça, c'est mon père, à 6 ans, qui m'explique ça. C'est pas facile à comprendre, petit, mais bon, il y a tout un cheminement après qui fait qu'on arrive à comprendre. Et donc il m'explique que les Français nous détestent et parce qu'il y a eu la guerre et aujourd'hui ils l'ont à travers la gorge, etc. etc. Donc je me suis rendu compte que au fil du temps que je me suis construit avec ça et qu'il n'avait pas tout à fait tort, que le regard de l'adulte était souvent un regard paternaliste, condescendant, intégrationniste, qui me disait que pour leur ressembler, il fallait manger du cochon et boire de la binouze. C'est vrai que c'est pas facile de se construire quand à la maison, on a des valeurs qui sont les nôtres. Moi, je vous ai pas dit, je suis enfant d'immigrés algériens, donc vous avez bien compris. Petit-fils d'indigène, donc résistant algérien, donc avec tout un système de valeurs autour de ça, qui sont aussi des valeurs puisées aussi dans la culture et la religion. Des valeurs de générosité, des valeurs de solidarité que la famille essaye de perpétuer, etc. Donc c'est vrai que j'ai vite compris qu'il y avait un « eux », un « nous », un « nous », un « vous » qui était assez, assez clair. Donc, mais bon, après, bon, quand on a 6 ans, on n'a pas encore lu de livres de sociologie et il nous manque quelques petites clés pour évoluer. Donc, on évolue sur le terrain, on évolue petit à petit. Donc, ça commence dans l'adolescence. On a parlé des conseillers d'orientation avec des discours évidemment stigmatisants sur certaines populations immigrées. On a eu les insultes évidemment dès l'adolescence de la police. voilà, sale raton, t'es comme ton père, etc. etc. Les insultes du voisinage, Fatima, tout ça pour ma mère, etc. Donc on se construit, évidemment, on se construit comme ça. Ensuite, il a fallu grandir, hein, devenir adolescent, et donc les centres sociaux, les maisons de quartier étaient... porte grande ouverte pour tous les esprits formatables, hein, qui acceptent la pensée dominante, intégrationniste, attention, républicaine. Donc évidemment, nos parents nous y envoient, hein, puisqu'il ne faut pas faire de vagues, et puis il faut s'intégrer dans une société et puis être quelqu'un de bien. Donc on se retrouve à se faire formater l'esprit aussi dans les centres sociaux. Donc on parle d'éducation populaire, elle est belle, hein, l'éducation populaire, puisqu'elle nous, elle nous fabrique, évidemment, puisque c'est assez, assez logique, puisque les conseils d'administration, les présidents sont simplement les élus de la ville en place. Moi j'habite Lille, donc Parti Socialiste, hein, vous avez compris. Donc je me suis dit à un moment, où je trouve mon espace de liberté, qui je suis, comment chercher un moment aussi, comment réfléchir sur mon identité. Donc j'ai pas trouvé autre chose, parce que j'étais complètement en rejet de tout ce qui venait du blanc. Puisque dominant, puisque il nous déteste. Donc j'étais totalement en rejet. Donc il a fallu à un moment se construire, se fabriquer. Alors donc on s'est mis à faire de la musique en se disant, bon, on a un espace qui est le nôtre, on fait ce qu'on veut à l'intérieur. On s'est rendu compte qu'on était aussi pareil, hein, puisqu'il a fallu, pour faire de la musique, s'inscrire dans des dispositifs qui étaient des dispositifs associatifs, qui normalisent, qui cadrent, qui orientent. Pareil, qui répondent à des logiques de financement, de chiffres, etc. Libéral, capitaliste, etc. Puisque voilà, on fabrique encore des gentils moutons dociles, même dans la musique. Alors voilà, mon opinion, moi, à l'époque de l'art, qui était un espace de liberté, d'indépendance, d'insoumission, je me suis vite rendu compte que ça n'existe pas. Alors, on continue, hein, dans le cheminement. On a essayé la politique dans le quartier. On a essayé d'avoir un discours justement de résistance, s'inscrire en résistance dans nos quartiers, dans mon quartier. On a essayé de s'organiser, faire des choses. On s'est rendu compte que c'était verrouillé aussi et qu'on n'avait pas tout à fait les armes. Donc on a même essayé de se fabriquer intellectuellement en choisissant nos éducateurs, en se créant une école à nous. On a été chercher nos éducateurs qui nous ressemblaient et qui pouvaient nous aider à nous donner des outils pour résister, pour lutter contre la domination et pour l'indépendance et pour la liberté. Donc on a fait une école, ce qu'on appelait à l'époque, c'était un peu pompeux, et finalement on a même été chercher des financements publics pour faire ce genre de choses. Mais bon, c'est encore une succession de chocs traumatiques. Et donc on s'est créé notre école du citoyen, mais évidemment encore financé, encore des gens qui se gargarisaient encore de voir ces petits arabes du quartier s'éduquer eux-mêmes et qui se félicitaient en réunion publique, etc. Donc c'est des choses que, évidemment, on a encore vécu. Donc à un moment, je me suis dit, bon, il faut sortir de ce milieu associatif de dépendance, etc. Donc on s'est dit, bon, on va créer notre propre asso, notre propre association, où on allait s'organiser pour pouvoir créer des choses, créer des festivals, créer de la musique, etc. Et on s'est vite rendu compte qu'il fallait passer nos journées à rouler des patins dans les villes, dans les bureaux de la ville de Lille, aux élus, voilà, en costard. Et ils adorent ça. Et donc, encore une fois, encore un choc, hein, c'est petit à petit, on se rend compte à un moment comment ça fonctionne et que finalement, on a du mal à sortir de ces rapports de domination où encore on nous explique encore la vie que, alors je tiens à dire quand même que quand on fait du rap et qu'on demande des financements culture à la ville de Lille, bon, c'était il y a quelques années, ça change un petit peu aujourd'hui, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, on nous envoyait au conseil communal contre la délinquance, c'était l'endroit où on nous finançait pour faire du rap, c'est normal, ça vient des quartiers. Et donc, mais la culture, on n'y avait pas droit. Alors, donc ça, quand on le prend dans la gueule comme ça, évidemment, ça fait mal, mais on se dit, bon, on n'a pas le choix, c'est vital, il faut qu'on puisse créer, qu'on puisse faire des choses. Et on s'est mis à organiser des choses, mais on se rend compte qu'on n'était pas du tout libre et qu'il fallait toujours répondre à un cahier des charges qui appartenait aux dominants qui étaient en face de nous et que les discours irrévérencieux, insolents, d'indépendance, etc., c'était à oublier. Et alors moi, j'ai imaginé que l'art, c'était l'inverse. Donc je vais vous passer quelques étapes pour vous dire qu'à un moment, on a décidé de tout couper. Les ponts avec les institutions. On a monté un projet, donc c'est-à-dire le projet dans lequel je suis aujourd'hui, qui est professionnel. Alors c'est triste. Je suis le seul rappeur, les deux seuls rappeurs de ce groupe-là, professionnels à Lille. C'est quand même fou. Et qui vivons de notre musique. Donc professionnel, ça veut dire vivre de sa musique, avoir un cachet, un statut intermittent du spectacle. Et ça a été possible le jour où on a juré de manière solennelle de plus mettre un pied dans une institution et se dire à un moment, je prends mon indépendance et je pratique le terrorisme. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis réellement en résistance et c'est pas juste une posture voilà, de politique comme ça à la con. Ce jour-là, tout a changé. Puisque rien n'a devoir à personne. Et notre projet, aujourd'hui, se pérennise tout seul, parce qu'il est complètement dépendant. Et puis, on n'a pas le choix de nous aussi, de beaucoup travailler et de continuer à être sérieux dans notre travail, puisque aujourd'hui, on est seul, mais finalement, ça paye. Le problème aujourd'hui du milieu culturel, c'est d'être complètement institutionnalisé, c'est-à-dire complètement. Vraiment, il n'est pas libre. Il s'inscrit dans aucune, pour ma part, dans ce que je connais, puisque j'ai la chance aussi de voyager, de faire le tour de France et de rencontrer toutes les associations culturelles. Évidemment, il y a des gens qui luttent, hein, évidemment. Hein, mais le tissu culturel lillois, par exemple, ne s'inscrit absolument pas dans les luttes populaires, dans les luttes sociales, sans papier, contre la colonisation, contre l'impérialisme, contre le capitalisme, etc. Ça n'existe quasi pas, parce qu'ils sont occupés aujourd'hui à reproduire ce qu'ils ont promis aux institutions, aux gens qui les financent. Et surtout pas avoir un discours qui pourrait éventuellement les empêcher d'être reconduits l'année suivante. Alors pour vous dire à quel point, dans les situations d'urgence dans lesquelles on vit aujourd'hui, dans un pays à ce point sécuritaire, à ce point raciste, je parle évidemment des expulsions massives, de rapport à la police avec les sans-papiers, etc., ou quand on essaie de monter quelque chose avec les institutions, avec les associations culturelles, etc., où c'est pas possible. Ça veut dire une table, ils nous la prêtent pas. Pour moi, c'est inacceptable que l'art et que la culture soient à ce point-là au service de la domination, au service des partis politiques, etc. Et je continue mon combat. Aujourd'hui, mon combat, c'est d'être libre, indépendant, dans mon espace et de faire chier le monde. Voilà.
Extrait du témoignage de Saïd, l'un des deux rappeurs du groupe MAP, Ministère des Affaires Populaires. Enregistré lors des rencontres européennes de la jeunesse à Arras le 5 novembre dernier. Pour terminer ce second sujet consacré à cet événement, un témoignage poétique, celui d'un autre rappeur lillois, il s'appelle MC Métis. Lui aussi était invité à apporter son point de vue librement lors de ces rencontres.
Je rentre pas dans leur case, j'ai la vision beaucoup trop large. Je sais pas me tenir à carreau, donc j'écris dans la marge. Pour moi, c'est sincérité, surtout pas de zama. Eh, me parle pas de révolution avec leurs propres armes. C'est eux qui ont les cartes, on sait même pas où est le tapis vert. Y a plein de temps que je crois plus au Père Noël, tapigé. Même petit, je lui ai tiré la barbe. J'ai su qu'ils tapissaient leurs murs avec des balivernes du style Jésus né à l'hiver. Alors je mêle pas leur sale bise avec mon rap. Comment, dans la même phrase, tu mets indépendant et plan clap? Sans manichéisme, c'est contre eux que je construis. Demande à Luciano en vrai, qui se bat contre qui, nous? On marche avec l'honneur pour récupérer la rue. Leur arme, c'est l'horreur, demande à Tupac Amaru 2. Aux années 60, et demande à nos leaders morts, quand la culture est assassinée par les pilleurs d'or. À base de mercantiles et de rentables débiles, ils veulent niquer nos campagnes pour en faire des villes. Ils parlent de civilisation des peuples primitifs. Comme si les Mayas avaient attendu l'an 2000. Comme si Cristobal Colón était un pionnier. Comme un pied de nez, le sphinx leur rayonnait. Je pardonne pas, pourtant, si je me décris méchant, je mens. Regardons devant la famille, ça sent le changement.
Vous qui sans pitié mettez la main dans la caisse. Pendant que les proles transpirent pour gagner quelques pièces. Vous qui magouillez à vous en foutre plein les poches. Alors qu'en bas ça trime pour faire becter les mioches. Vous vivez dans l'impunité toujours au-dessus des lois. Intouchables comme des rois, méprisés les sans-droits. Vous qui contrôlez les destins de ceux qui ont que dalle. Et ignorez les douleurs, les cris de ceux qui ont mal. Vous donneurs de leçons, même avec vos mains sales. Vous qui calculez le bétail électoral. Vous qui nous voyez comme un tableau de statistiques. Comme un problème, ou comme un enjeu politique. Vous la crème des crèmes, politico-affairistes. Vous et vos visions d'amont d'ultra-capitaliste. Vous, exploitants de la misère. Vous qui méprisez nos chansons de la colère. Préparez-vous à mordre la poussière. Attendez-vous à vivre l'enfer.